Alors, cher Raphaël, grosse journée avec un tweet du président qui inquiète beaucoup de monde. Président Trump qui suggère de simplement repousser l'élection présidentielle du 3 novembre, peut-être parce qu'il s'est levé puis qu'il n'a pas aimé les chiffres de l'économie.
Peut-être, hein? C'est une hypothèse qui se défend, on s'entend.
Oui.
Écoute, d'emblée, Marc-Claude, je pense qu'il faut le dire, là. Il y en avait plusieurs, nous les premiers, qui l'avaient vu venir depuis un bout de temps, celle-là. On peut pas dire qu'elle était surprenante, ça veut pas dire pour autant qu'elle n'est pas dérangeante. Donc, d'abord et avant tout, peut-être faire le point ensemble là, sur ce que le président peut et ne peut pas faire concrètement. Premièrement, et là-dessus, il faut être sans équivoque, le président des États-Unis ne peut pas reporter l'élection présidentielle du 3 novembre. Point à la ligne. La loi, elle est claire, c'est un pouvoir qui revient au Congrès. Et non président. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, si le président perd, il ne peut pas rester. Là-dessus, c'est la Constitution qui est claire. Son mandat, il se termine le 20 janvier 2021. Là-dessus aussi, c'est sans équivoque, point zéro. C'est fini après ça. S'il reste au-delà de ça, Marc-Claude, c'est parce qu'il va avoir gagné un autre mandat en novembre. Autrement dit, là, le président n'a plus aucun pouvoir constitutionnel au-delà du 20 janvier. Il cesse d'être le président le 20 janvier 2021, encore une fois, à moins d'avoir été réélu.
Voilà. Mais donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est quand il nous dit des choses comme l'autre jour dans l'entrevue avec Chris Wallace, quand s'il perd, bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas trop sûr encore, etc. Peu importe ce qu'il souhaite faire ou souhaiterait faire, ça sera juste pas permis.
C'est exactement ça. Donc, il n'a pas ce pouvoir-là qu'il semble se donner ou vouloir se donner. Une fois que ça s'est dit, une fois que cette nuance-là importante est mise d'emblée, ça ne revient pas à dire que ça n'a pas d'importance, qu'on peut juste dire « ben, c'est un tweet comme un autre ». Non, ça a des implications pour la démocratie. Parce que s'il y a une chose qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas remettre en question dans une démocratie, c'est l'intégrité des élections, l'intégrité des résultats électoraux. S'il y a une chose qui doit être sacro-sainte toujours, c'est ça. Et ça, c'est vrai que tu aies de la misère ou non à digérer la défaite. Et c'est drôle parce que l'histoire américaine est bourrée de cas de candidats qui en ont, disons, eu à digérer des pas faciles. Prends Nixon en 60 contre Kennedy, Gore en 2000 contre Bush. Dans les deux cas, ils avaient perdu l'élection, même s'ils avaient probablement gagné le vote populaire. Dans le cas de Nixon, c'est assez peu connu, mais ça reste vrai.
Hillary Clinton aussi qui avait gagné le vote populaire.
Hillary Clinton qui avait gagné le vote populaire en 2016. Dans le cas de Nixon, dans le cas de Gore, il y avait eu des sérieuses accusations de pratiques électorales douteuses. Tu te rappelleras en 60, le camp de Kennedy à Chicago, le camp de Bush en Floride en 2000. Mais dans les deux cas, Marc-Claude, Nixon et Gore, ils avaient accepté la défaite. Aussi amère que ça pouvait être, ils l'ont accepté.
Ah non, puis on en a vu même ici en politique canadienne, politique québécoise, des gens pleurer, là, des équipes au complet brailler un soir électoral, mais c'est comme ça.
Mais tu peux pas, tu ne peux pas remettre ça en question. Et donc, pour moi, la question, c'est pas est-ce que Donald Trump va s'accrocher? Il pourra pas s'accrocher s'il perd. La question, c'est davantage qu'est-ce qui arrive à la confiance envers les institutions électorales, à la stabilité du système politique, si le président sortant, une fois qu'il est battu, refuse de reconnaître la légitimité, même une fois qu'il n'est plus président, après janvier 2021, pendant la période de transition entre novembre et janvier, puis après le début du règne de son successeur, j'imagine, là, qu'est-ce qui arrive si des millions, voire des dizaines de millions de ses supporters l'accompagnent dans ce déni de légitimité-là? Tu sais, il y a des composantes sociales, il y a des composantes à beaucoup plus long terme pour la stabilité de la démocratie américaine. C'est pour ça que c'est grave et c'est pour ça que ça peut pas simplement être traité comme un tweet. T'en parlais un petit peu plus tôt dans l'heure avec Jean-Marc Léger. Je veux pas répéter ce qu'il a dit. Il y a seulement une chose, je pense, sur laquelle il faut revenir. Mm-hmm. C'est que Donald Trump n'en est pas à sa première offense. Je vais le dire comme ça, là. En 2016, alors qu'il pensait peut-être perdre contre Hillary Clinton, il avait très clairement déclaré, notamment dans un débat présidentiel contre Mme Clinton, qu'il allait voir le jour de l'élection, dépendant du résultat, s'il acceptait le résultat. Là, on est en 2020.
C'est vrai.
Il faut pas l'oublier, c'est que ça n'a pas rapport avec la question de la possible fraude électorale parce qu'on aurait des votes par la poste à cause de la pandémie. Ça n'a pas de rapport. Il y a quatre ans, c'était d'autres excuses qui étaient invoquées. Là, cette année, c'est un nouvel ensemble d'excuses. Il ne peut pas, il ne doit jamais y avoir d'excuses valables pour rejeter la légitimité d'un résultat électoral dans une démocratie comme les États-Unis. Donc ça aussi, ça mérite d'être dit. Et je reviens sur quelque chose que, personnellement, je répète à l'émission depuis le printemps. Je l'ai dit à Patrick, je l'ai dit à plus d'une reprise. Mm-hmm. Quand la COVID-19 est arrivée, avec les mesures qui ont été imposées pour lutter contre le virus, j'ai toujours dit qu'on allait voir au moins 3, potentiellement 4 types de crises majeures aux États-Unis. Sanitaire, économique, sociale et démocratique. Les 3 premières, on est dedans. La 4e, Marc-Claude, là,
ça s'en vient.
On commence à en voir des signes sérieux aujourd'hui.
Et oui, parce que son tweet, Raphaël, je rappelle donc pour ceux qui viennent de se joindre à nous que le président Trump a tweeté qu'il songeait à repousser l'élection présidentielle du 3 novembre, ce qu'il ne peut pas faire constitutionnellement. Mm-hmm. Mais ce que ça peut créer, c'est un climat d'incertitude chez les gens qui sont justement un peu fragiles sur déjà dans leur conviction du système démocratique, etc.
Et on répète également ceci. Il y a à peu près la moitié des États américains qui permettent que les bulletins de vote, s'ils sont envoyés par la poste, soient reçus après le jour du scrutin, ou soient comptés après le jour du scrutin. Donc, imagine si c'est serré et que tu as des États, et dans ces États-là, soit dit en passant, tu as des États comme le New Hampshire, comme le Michigan, comme le Wisconsin. La raison pour laquelle je te mentionne ces 3 États-là, c'est que c'est 3 des 4 États où la marge entre les 2 candidats était la plus petite en 2016. Donc, imagine si tu as ça dans un contexte où un des 2 candidats remet activement pendant des semaines ou des mois la légitimité des élections par la poste. Tu sais, le cocktail est extrêmement explosif. Tu ne niaises pas avec ça. C'est pour ça que c'est dangereux. Et ça me tente d'aller même plus loin que ça, Marc-Claude, de ratisser plus large que ça. Parce que là, on se parle du tweet, on se parle de remettre en question l'intégrité des élections américaines. Avec Donald Trump, ça fait plusieurs normes qui sont brisées. Et souvent, c'est vu de façon anodine. C'est pas grave. Même des fois, c'est comique. Mais là, tu regardes juste dans les dernières semaines depuis le début de l'été, ce qu'on a vu. Prends en fait aujourd'hui même ce qui se passe. On n'a pas le temps de s'en parler vraiment parce qu'on parle trop du tweet de Donald Trump, mais il y avait aujourd'hui les funérailles nationales de John Lewis, l'ancien représentant évidemment qui est décédé dans les derniers jours, longtemps démocrate, longtemps champion de la cause des droits civiques. Bill Clinton était là, Barack Obama était là, le président en fonction n'était pas là. On a aussi appris que Donald Trump...
Ce qui n'est pas normal. Et souviens-toi de McCain aussi, qui avait demandé à ce qu'il ne soit pas là.
Exactement. Donc, ça en fait plusieurs. On a aussi appris que Donald Trump avait demandé de retirer les portraits de 2 de ses prédécesseurs, mm-hmm. Bill Clinton et George W. Bush. Parlant de portraits à la Maison-Blanche, ça, c'est une tradition de longue date de dévoiler le portrait présidentiel de ton prédécesseur. Obama l'avait fait de façon extrêmement gracieuse pour, justement, George W. Bush. Donald Trump ne l'a jamais fait pour Barack Obama. Donc, ce sont des choses qui s'additionnent et qui, ensemble, encore une fois, donnent vraiment quelque chose de toxique. Je te laisse sur ceci.
Oui.
Si tu me permets une dernière minute,
bien
je m'excuse.
Sûr. Je te permets cette minute sans faute.
C'est gentil. Je sais que j'ai l'air de faire un monologue, mais il y a tellement de stock aujourd'hui. Et là, il y a une chose, je pense, qui doit être abordée. Il y a plusieurs personnes, plusieurs auditeurs qui me posent la question, surtout depuis les derniers jours. Est-ce que Donald Trump, s'il perd, peut se représenter en 2024? La réponse là-dessus, elle est également très claire et c'est oui. Parce que la limite dans la Constitution américaine, elle est sur le nombre de mandats présidentiels que quelqu'un peut servir, pas sur le nombre de campagnes présidentielles qu'il peut faire. Donc, s'il perd, ça veut dire que forcément, il aura juste fait un mandat. Donc, il peut se représenter en 2024, 2028, 2032 si la forme physique lui permet, s'il veut le faire. Et donc, Donald Trump peut être dans le portrait, dans le paysage politique américain, pas mal plus longtemps qu'on réalise. Et non seulement il va garder la possibilité de se représenter s'il perd, il va garder son compte Twitter. Et Marc-Claude, il va également garder accès au brefage quotidien secret des services de renseignement américains.
Aïe.
Il y a ça à garder en tête aussi.
Oui, parce qu'il faut dire aussi que les présidents américains, même quand ils ne sont plus au pouvoir, restent présidents à vie. Les appelle Monsieur le Président
c'est
à vie. Mais Monsieur le VP. Ah bon, ben voilà. Écoute, on se laisse là, c'est vrai. Il nous reste 5 secondes. Merci beaucoup, Raphaël.
À demain.
Excellente soirée à toi. À demain. On s'arrête le temps des nouvelles et on parlera du témoignage de Monsieur Trudeau après.